C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 21 novembre et dans le cadre de la semaine contre les violences sexistes et sexuelles, nous parlerons aujourd'hui de leurs conséquences sur la santé.
En effet, de plus en plus de structures de santé se spécialisent sur cette problématique et accompagnent les victimes ou sensibilisent sur ces questions. L'université de Caen a d'ailleurs invité le psychiatre Éric Buy à l'occasion d'une table ronde sur les violences sexistes et sexuelles.
Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous serons avec Delphine Avrillon, psychologue au Centre Régional Psychotraumatisme Normandie, Gaëlle Arc, psychiatre au CRIAVS, le Centre de Référence Violences Sexuelles Normandie-Ouest, ainsi que Lucie Berbigier, psychologue au CRIAVS.
Mais avant ça, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec l'autorisation du glyphosate qui est prolongée de 10 ans par la Commission européenne.
Et oui, le puissant herbicide pourra donc toujours être utilisé, et ce malgré les controverses concernant ses effets sur la santé et l'environnement. Une autorisation prolongée qui choque une partie de la classe politique, notamment à gauche. L'eurodéputé écologiste Karima Deli se dit scandalisée par le manque de courage de la Commission.
Cette décision, elle émane de l'Union européenne, mais quelle est la position de la France sur le sujet?
Eh bien, la position de la France, on peut dire qu'elle est assez ambiguë. Disons qu'elle n'est pas totalement opposée à l'utilisation du glyphosate, mais elle n'a pas pris part au vote sur le sujet. Pour le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, on ne peut pas être dans un régime qui soit en permanence de l'interdiction, sans aucune solution, sans aucune alternative. Mais partout où l'on peut réguler les usages, il faut le faire. Le décollage de la fusée Starship prévu samedi s'est mal passé, Axel.
Eh oui, la nouvelle fusée de SpaceX, la plus grande jamais construite, a tout simplement explosé. Elle, dont le but est un jour d'emmener les hommes sur la Lune. Malgré un bon décollage, elle n'a pas réussi à se placer en orbite proche comme c'était prévu. L'étage de propulsion a perdu le contact avec la fusée après seulement 8 minutes de vol. Résultat, une double explosion au lieu d'une douce redescente vers Hawaï.
Est-ce que pour autant cette explosion est le signe d'un échec?
Non, on ne peut pas dire ça. Malgré ces débris qui peuvent effrayer et faire penser à un accident, on ne peut pour autant pas dire qu'il s'agit d'un échec. Les moteurs se sont rallumés, la plateforme de lancement est restée intacte et au final, l'explosion n'est pas très grave à ce stade. Dans l'ensemble, l'opération est même un succès. Chloé Carrière, une ingénieure en aérospatiale, parle même dans le magazine 20 minutes d'un échec réussi. Désormais, l'objectif pour Elon Musk, c'est de refaire une fusée, quitte à la détruire à nouveau jusqu'à ce que ça marche. Et on reste dans l'espace avec la Station Spatiale Internationale qui fête ses 25 ans.
Et oui, le 20 novembre 1998, Zarya, le premier module de l'USS, décollait de Baïkonour au Kazakhstan. Depuis, une trentaine de modules ont été ajoutés, le dernier en 2021. L'ISS, c'est l'aboutissement d'un projet né en 1984, voulu par Ronald Reagan, dans un but de coopération entre partenaires du bloc de l'Ouest.
Et aujourd'hui, l'ISS est devenu le symbole d'une coopération internationale.
Et oui, car des astronautes de tous les pays s'y succèdent et travaillent ensemble malgré les conflits qui peuvent opposer leurs nations respectives. Le cas de la guerre en Ukraine en est d'ailleurs un exemple parfait, car si la plupart des coopérations scientifiques avec Moscou sont à l'arrêt, l'ISS fait office d'exception. Une exception qui, on l'espère, durera encore les dernières années de vie de la station, qui sera démontée et brûlée dans l'atmosphère autour de 2030. Une bonne nouvelle en médecine, on aurait trouvé dernièrement un nouveau remède contre la tuberculose.
Un remède définitif peut-être pas, mais le levofloxacine permettrait en tout cas de réduire considérablement les risques de la tuberculose multirésistante, une des formes les plus graves de la maladie, à hauteur de 60%. Présenté ce jeudi 16 novembre au Congrès international de pneumologie à Paris, cet antibiotique pourrait être une solution pour les tuberculeux. En plus d'éviter la propagation de cette maladie, le médicament est aussi bien moins cher, ce qui réduirait largement les inégalités aux soins, les traitements pour les formes graves de la tuberculose étant très coûteux.
Est-ce que tu peux nous rappeler l'ampleur de cette maladie ?
La tuberculose est une maladie qui est encore très répandue et très meurtrière. Elle touche 10 millions de personnes dans le monde. C'est la deuxième cause de mortalité due à une maladie infectieuse. Elle touche encore l'Afrique du Sud, qui touche encore en Afrique du Sud une personne sur 200. En France, la maladie n'est pas éradiquée puisqu'elle concerne encore aujourd'hui près de 4000 personnes. Et on termine avec une découverte des scientifiques pensent avoir compris comment les oiseaux parviennent à dormir debout.
Et oui, et on est nombreux à se demander, mais comment font-ils pour tenir en équilibre sur leurs deux pattes alors qu'ils sont assoupis ? Eh bien en fait c'est très simple, les pattes qui se trouvent sous leurs plumes sont en fait fléchies, les forces sur le squelette et les tendons sont donc parfaitement réparties et l'oiseau n'a besoin d'aucun effort musculaire ni d'aucune dépense énergétique pour se maintenir en équilibre.
Mais cette découverte n'aide pas qu'à en savoir plus sur les oiseaux, elle nous permet aussi d'imaginer de nouvelles innovations technologiques.
Oui, car grâce à cette découverte, les ingénieurs vont pouvoir calquer le modèle de l'oiseau sur des nombreux robots bipèdes pouvant marcher et rester longtemps immobiles, mais aussi, pourquoi pas, sur des trains d'atterrissage sur pattes pour des drones ou encore des bras robotiques articulés simplifiés, tout autant d'innovations qui pourraient s'avérer moins énergivores.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Dans le cadre de la semaine dédiée à cette thématique, Radio Phoenix vous propose des émissions consacrées aux violences sexistes et sexuelles connues sous l'acronyme VSS.
De plus en plus d'enquêtes à ce sujet paraissent et à chaque fois le constat est accablant. Par exemple, l'université de Nantes vient de révéler que 40% des étudiants et étudiantes interrogés affirment avoir été victimes de violences au moins une fois lors des 12 derniers mois.
Et ces violences, elles peuvent avoir des conséquences sur la santé des victimes. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Delphine Avrion. Bonjour. Vous êtes psychologue au Centre Régional Psychotraumatisme Normandie. Avec nous également Gaëlle Arc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre au CRIAFS, le Centre de Référence Violences Sexuelles Normandie-Ouest. Et vous êtes accompagnée de Lucie Berbigier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue au CRIAFS. Pour commencer, j'aimerais qu'on comprenne d'un point de vue de la médecine, qu'est-ce qui rentre dans le cadre aujourd'hui des violences sexistes et sexuelles ? Qui veut se lancer ?
Alors, je pense que, effectivement, ça va être tout ce qui concerne ce qu'on appelle des traumatismes sexuels. Donc, toutes les agressions, en fait, qui vont toucher à ce registre-là. Alors, les violences sexistes, c'est encore plus large que ça, puisque c'est bien toutes les violences, finalement, au genre, faites au genre. Donc, ça peut être... Des remarques, des insultes, des changements de comportement en fonction du genre de la personne. Voilà, toutes ces catégories-là qui peuvent entraîner des différences, des discriminations en fait, hein, faites au genre. Et les violences sexuelles, ça va être toutes les agressions sexuelles type viol, attouchement, etc. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir et dont on va parler... Ensuite, je pense, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique qui nous concerne un peu plus toutes les trois, je pense.
Alors, quels sont les différents troubles mentaux que peuvent causer les violences sexistes et sexuelles chez la personne qui les subit ?
Alors, il y a plein de troubles différents. Peut-être que le premier trouble, on peut avoir une dépression, par exemple. C'est des gens qui peuvent... déprimé. Après, on peut développer aussi des troubles anxieux. Il peut y avoir aussi des troubles au niveau du comportement alimentaire qui peuvent se développer, des phobies, phobies sociales par exemple. Et puis, on peut aussi voir le développement de troubles de stress post-traumatique suite à ces violences sexuelles. Enfin, voilà, après, il peut y avoir multiples troubles.
Les troubles qu'on va pouvoir observer, ils vont être dépendants aussi de beaucoup de choses, de la personne en elle-même, de comment elle va réagir, de son environnement, de la nature aussi, de l'agression. Et puis, effectivement, je rajouterais aussi à tous ces troubles du sommeil, de l'appétit, de les troubles aussi dans l'intimité, dans la sexualité, les troubles affectifs. Voilà. Et ils vont aussi se décliner différemment en fonction de l'âge de la victime, hein, selon si la personne est... Et un enfant, un adulte, voilà. Il va y avoir énormément de facteurs qui vont varier.
Oui, c'est ça, c'est très varié en fonction de la nature de l'agression et aussi de la personne qui la reçoit, ou c'est lié à quoi ça ?
En fait, je pense que tout le contexte est important. Et déjà, c'est important de préciser, comme le disait ma collègue, une personne victime va pas développer forcément un panel de troubles extrêmement intense, etc. Ça va vraiment dépendre de la personne et de ses capacités de résilience aussi face au trauma. Et ça va dépendre de l'âge de survenue, si les événements, les agressions ont duré dans le temps ou pas, si il y avait un lien avec l'agresseur, notamment dans le cadre de l'inceste, par exemple, les conséquences ne seront pas les mêmes. Mais ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'il n'y a aucun symptôme, aucun signe qui est spécifique des violences sexuelles. On ne peut pas dire à 100% parce que la personne a tel symptôme, elle a forcément été victime de violences sexuelles.
Et quelles vont être les conséquences de ces troubles psychiques sur la santé concrète de la victime ?
Alors, ça, c'est des choses qui sont encore en état de recherche, hein, mais effectivement, il y a notamment une psychiatre, Muriel Salmona, qui s'intéresse beaucoup à cette question-là. Et on a pu voir chez certaines personnes qui avaient subi des traumatismes sexuels qu'il y avait notamment une atrophie des hippocampes. Voilà, après de savoir...
Qui est une zone du cerveau.
Une zone du cerveau, excusez-moi. Ouais. Qui est endommagée au moment où des personnes peuvent subir des traumatismes. Mais pour autant, on n'a pas encore vraiment réussi à faire le lien entre le traumatisme et ces atrophies du zone du cerveau. Voilà.
Est-ce qu'on peut observer ces conséquences, notamment sur le cerveau, via du matériel médical, par exemple ? Je pense par exemple aux IRM.
Oui, bien sûr. Il y a des lésions qui sont visibles sur l'IRM, en imagerie médicale.
Et mais est-ce que du coup, on sait vraiment si ces lésions sont directement causées ou est-ce qu'on a encore des doutes ?
C'est encore effectivement à l'état de recherche et d'avancée, mais de plus en plus, on peut imaginer qu'il y a réellement un effet de conséquence, un lien de conséquence entre les traumas qui ont été subis et des modifications au niveau du cerveau.
On parle depuis tout à l'heure du coup des conséquences plutôt psychiques. Est-ce que les VSS, elles peuvent aussi déclencher d'autres pathologies qui ne sont pas liées à la psychologie ?
Tout à fait. En fait, on remarque que les personnes victimes de violences sexuelles ont plus souvent des symptômes physiques. Alors ça peut être très variable, par exemple des douleurs chroniques, des douleurs gynécologiques, des décompensations de maladies préexistantes comme du diabète ou des choses comme ça. Donc physiquement, en fait, ce sont des personnes qui peuvent, et je dis bien peuvent parce que ça ne va pas être systématique, mais qui peuvent avoir tout un panel de symptômes qui sont parfois inexpliqués. C'est-à-dire qu'une personne peut présenter une fatigue chronique ou des douleurs, elle va aller consulter plusieurs fois un médecin généraliste, il y aura des examens complémentaires qui ne montreront pas forcément grand-chose, et pour autant, les symptômes seront là. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais effectivement, il peut y avoir des symptômes physiques.
Et là aussi, on peut établir un lien clair où on est encore dans le doute, dans la supposition, dans la recherche ?
Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à chercher et à mettre en avant dans le lien, mais en tout cas, on sait que le stress chronique, notamment, peut induire des modifications en termes d'hormones, tout un tas de choses compliquées à expliquer là dans cette émission, mais en tout cas, ça induit des anomalies de fonctionnement ou en tout cas des dysfonctionnements. Dans plein d'organes du corps.
Et est-ce que les traumatismes qui vont être liés directement au VSS sont comparables aux autres traumatismes liés à autre chose ? Je sais que vous traitez que les traumatismes liés au VSS. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux et est-ce que ça revient au même ou est-ce qu'il y a quand même des vraies différences ?
Alors, ils n'ont rien de particulier. En fait, nous, on traite au centre psychotrauma, on traite l'ensemble des traumatismes à partir du moment où ça entraîne un trouble de stress post-traumatique. Donc les gens peuvent s'adresser librement à nous, en fait, quel que soit le trauma. Après, nous, on fait une évaluation pour confirmer le diagnostic. Et ensuite, on leur propose une thérapie. Mais on va autant accompagner des gens qui sont victimes de VSS que des traumas de la route ou des accidents ou suite à des attentats. Mais majoritairement, quand même, depuis l'ouverture du centre régional, on a une majorité pour des violences sexuelles.
Et vous remarquez quand même des particularités globalement sur les victimes violences de VSS ?
Alors, c'est vrai que c'est tellement large, finalement, le psychotrauma, que, encore une fois, quand on parle de VSS, on va avoir une différente symptomatologie en fonction de si c'est un fait unique, si c'est un fait répété, si ça a duré longtemps, si c'est quelque chose qui a été dit, révélé, ou qui est resté dans le secret, s'il y a une amnésie du trauma, etc. Et oui, enfin, on peut quand même supposer que, si on prend l'exemple, admettons, d'une situation d'inceste où un enfant a été agressé pendant des années, qu'il n'en a pas parlé, et qu'il a ce qu'on appelle une amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'il ne va même pas se souvenir de ce qu'il a subi, eh bien, on va peut-être être dans une symptomatologie différente qu'une personne qui, par exemple, a subi un braquage dans un supermarché.
Notamment dans le lien aux autres, dans la possibilité de faire confiance. Alors, pour un enfant, faire confiance à un adulte, et notamment dans le cas d'inceste, où l'adulte qui était censé le protéger ne l'a pas protégé et en plus l'a agressé. Donc comment après, dans les relations ultérieures, cet enfant, quand il va grandir, il va pouvoir instaurer des liens sécures et des liens de confiance avec les personnes. Et ce que tu disais, Lucie, tout à l'heure, tout ce qui touche à l'intimité, à la sexualité, qui peut être perturbé, en fait, chez ces personnes-là.
Ça peut être différent aussi en fonction de l'événement lui-même et de la dangerosité, en fait, de la violence sexuelle. C'est-à-dire que ça va être différent si, par exemple, il y a eu une menace avec une arme, si c'est sous contrainte, s'il y a eu des produits. Enfin, ça dépend aussi du contexte, en fait, de la violence de l'événement lui-même.
Est-ce que ces maux, qui sont les conséquences donc des VSS, ils peuvent se réveiller des années plus tard ?
Tout à fait.
Et c'est lié à quoi ce délai ?
Ça, je vais en dire, c'est un peu... C'est encore aussi en étude de recherche, il y a beaucoup de recherches là-dessus, justement, sur l'amnésie. Donc, c'est vrai que c'est assez variable. Il y a des patients qui vont développer des symptômes tout de suite, aussitôt, juste après l'événement. Parfois, ils vont être dans un stress aigu en réaction à l'événement, et puis après, ce stress va diminuer. Et en fait, ils vont reprendre le cours de leur vie et vont pas forcément développer de trauma derrière. Et puis, il y a effectivement des gens qui vont être en silence, comme ça, pendant plusieurs années, et d'un seul coup, souvent en lien avec un événement déclencheur, les symptômes vont exploser et ils vont se retrouver à vivre difficilement, en fait, avec tous leurs symptômes dans leur quotidien.
Ouais, y a des éléments déclencheurs types qui font, ou ça peut être vraiment tout et n'importe quoi.
Ça peut être, en général, c'est souvent... Non, en fait, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, parce que j'ai pas mal de cas cliniques là qui défilent, mais des fois, c'est aussi le passage à un âge. Des fois, effectivement, c'est quelque chose qui est associé au souvenir traumatique. J'avais une patiente hier qui me disait, c'est un oiseau, vous voyez, un oiseau qui vole, et à ce moment-là, à ce moment du trauma, elle a vu un oiseau voler, et voilà, l'oiseau, ça va redéclencher le souvenir. Donc, c'est vraiment, ça peut être vraiment très, très large.
Ça peut être aussi à l'occasion de... modifications dans le corps, je pense par exemple à une grossesse, des symptômes et des souvenirs du trauma qui se réveillent à ce moment-là en fait.
Et ça arrive aussi à des moments à l'occasion de soins, et notamment de soins du corps, c'est-à-dire qu'il y a notamment chez le kiné, et ben, il y a beaucoup de moments où c'est des situations assez fréquentes, en tout cas où il va y avoir des révélations parce que le corps est à nouveau touché et dans une situation assez passive. Et donc ça va être l'occasion de remémoration à ce moment-là, parce que le corps se souvient et garde une trace, même si la mémoire ne se souvient pas.
Et est-ce qu'il y a des séquelles définitives qui sont incurables peut-être, qui sont causées par les VSS ? Quelles sont-elles ?
Des séquelles physiques ou psychologiques ?
Les deux.
Bah dans les VSS, il y a aussi tout ce qui est excision. Enfin, il y a toutes ces violences-là aussi physiques. Donc là, pour le coup, il y aura des séquelles importantes et avec des reconstructions qui existent aujourd'hui. Mais oui, en fait, pour ce qui est troubles de stress post-traumatique, ça a une comorbidité assez importante avec des symptômes dépressifs, des addictions aussi. Donc, ils peuvent aussi développer des troubles qui vont être un peu plus conséquents. On sait que les addictions, ça peut aussi avoir des conséquences sur la mémoire. Donc, effectivement, oui.
Et aujourd'hui, jusqu'où est-ce qu'on est capable d'aller soigner un traumatisme ? Là aussi, j'imagine que ça peut dépendre beaucoup de l'individu qu'on a en face.
Oh oui, et puis je pense que on ferait pas ce métier si on pensait que c'est définitif et qu'on ne peut pas guérir de ces troubles-là, ou en tout cas récupérer une qualité de vie satisfaisante. Hein. C'est évidemment que avec des soins appropriés et surtout une prise en charge rapide. Et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, une de nos missions, nous, avec notre on travaille au sein d'une structure qui s'appelle CEOCVS ASAP. Et qui propose un accueil anonyme si les personnes le souhaitent, donc les personnes victimes ou leur entourage, pour pouvoir évaluer justement les symptômes, les risques et orienter vers du soin rapidement en fait. Et c'est ça qui va être important, c'est de pouvoir avoir une prise en charge adaptée et rapide pour éviter à la fois l'apparition des symptômes ou que ceux-ci s'installent et persistent dans le temps.
On continue de parler des conséquences des violences sexistes et sexuelles sur la santé, mais avant on va faire une pause musicale. Écoutez Black Mascara de Ray, à tout de suite dans C'est pas faux.
see my black mascara run from you into my mama's hands. You selfish man, you understand what you want. You see my slick eyeliner blend into my black designer bags under my eyes. Oh, how you try to understand what you done to me, what you done to me, what you done to me, 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 you done to me. You made your bed, made your bed, lied your lies, lied your lies, fuck my mind. Oh, try to understand just what you done to me, 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 you done to me. You made your bed, made your bed, lied your lies, lied your lies, fuck my mind. Oh, try to understand just what you now you see my black mascara.
Tell them hoes to be minding they business. Heart broke, but I'm still looking like millions. Six shots down, so I can't feel this. Talking my ear off, cocaine. Got a bitch gassed up, propane. Now I can't come down, or it pours, or underneath my eyes, how it rains. There's clouds up high, but the stars on the ceiling of the Royce. I hear this pain drown every other noise. You talk to me dumb, like you didn't have a choice. I'm here now, fucked up, thinking there's a why. I'm out here sinking in these dark nights. Nights, oh yeah.
Don't you talk to me, you don't do me, my baby. Oh, what you done to me, you don't do me, my love.
Just what you done to me, you done to me, you done to me, you done to me, you done. Try to understand just what you.
C'était Black Mascara de Ray. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux, et dans le cadre de la semaine consacrée au sujet, nous parlons des conséquences des violences sexistes et sexuelles sur la santé avec Delphine Avrillon, psychologue au Centre Régional Psychotraumatisme Normandie, Gaëlle Arc, psychiatre au CRIAVS, le Centre de Référence Violences Sexuelles Normandie-Ouest, et Lucie Berbigier, psychologue au CRIAVS. D'un point de vue de l'accompagnement, comment est-ce qu'on aide les victimes de VSS? Est-ce qu'il existe des thérapies, par exemple?
Oui, effectivement. Donc, au centre psychotrauma, on va proposer des thérapies de première ligne qui sont recommandées internationalement. Donc, en fait, les patients, ils peuvent appeler d'eux-mêmes directement le centre psychotrauma. Ils seront reçus par Jennifer, notre secrétaire, qui leur fera passer un petit screening. Ensuite, ils seront donc évalués pour confirmer le stress post-traumatique. Et ensuite, on propose deux thérapies au centre psychotrauma, qui sont des thérapies plutôt d'orientation cognitivo-comportementale. La thérapie d'exposition prolongée, la thérapie des processus cognitifs, c'est des thérapies qui sont courtes, Donc à peu près sur 10 à 12 séances, on voit les patients une fois par semaine. Et c'est des thérapies très intensives, mais qui ont vraiment des résultats extrêmement satisfaisants sur le trouble de stress post-traumatique. Donc voilà.
Mais c'est quoi, ça aide beaucoup de la discussion du...
En fait, le principe premier du stress post-traumatique, ça va être des réactions d'évitement. Finalement, quand on est face à quelque chose qui nous déplaît, forcément, instinctivement, on va tous éviter. Sauf que pour le coup, quand on vit un trauma et qu'on évite, ça a tendance à renforcer les symptômes. Donc on va plutôt travailler sur cet évitement. Donc on peut avoir un évitement cognitif, plutôt de nos pensées du trauma, éviter les flashs comme ça du trauma qui reviennent toujours dans notre tête. Et puis on va avoir aussi un évitement comportemental, c'est-à-dire qu'on va éviter les lieux, les personnes, les objets, les odeurs. Enfin, tout ce qui va rappeler finalement le souvenir de trauma, elle remet dans notre tête. Et donc nous, on va, qu'il est prouvé que finalement tous ces mécanismes d'évitement maintiennent les symptômes, on va travailler sur cet évitement. Donc par exemple, on va en séance raconter le trauma de manière répétée et prolongée. Entre les séances, on va faire des exercices aussi en accord avec le patient justement pour s'exposer à ces odeurs, à des bruits qui peuvent réactiver le souvenir. Et tout ça, en fait, ça va aider à faire chuter ces symptômes. Et sur l'autothérapie des processus cognitifs, on va plutôt travailler sur des pensées finalement irrationnelles qui vont se construire du fait du trauma, puisque les peurs finalement elles vont un peu s'étendre. Alors, on va plus avoir peur forcément que de l'agresseur et ça va s'étendre finalement. Ces peurs elles vont prendre trop de place dans le quotidien et on va travailler sur ces pensées pour les restructurer et les remettre à leur bonne place en fait.
Qui sont les professionnels de santé qu'on va retrouver dans ces thérapies? Alors j'imagine on a façon des psychologues et psychiatres, est-ce qu'il y a d'autres aussi professionnels qui peuvent s'inscrire dans ces processus?
Alors oui, tout à fait. En plus des psychologues et des psychiatres, par exemple, on a nous dans notre service des infirmiers qui travaillent, qui sont formés spécifiquement à cette question évidemment des violences sexistes et sexuelles. On a aussi, alors on sera plus dans le champ de la santé, mais on travaille aussi avec des assistantes sociales hein, qui peuvent tout à fait nous aider parce que c'est toute une réinsertion qui va se faire dans le parcours de la victime.
On peut aussi être en lien avec des addictologues, notamment quand il y a des troubles addictifs associés. Enfin, c'est vraiment très large et ça va dépendre des symptômes présents chez la personne, en fait.
Oui, allez-y. Je vous en prie.
Ne pas oublier aussi, alors ce sera plus dans le champ de la santé, mais comment la justice, à un moment donné, peut prendre part à cette question de la restauration de la personne, c'est-à-dire comment dans le parcours aussi de justice, si la personne y vient, voilà, on va pouvoir travailler en réseau et contribuer aux soins de la personne.
Et ça c'est assez important aussi cette question de la justice, parce qu'on entend énormément que pour que la victime puisse se reconstruire, il faut forcément qu'il y ait une reconnaissance par la justice de son statut de victime. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on travaille avec les personnes qu'on reçoit sur quelles sont les attentes qu'elles peuvent avoir, qu'est-ce que c'est finalement la procédure judiciaire et notamment les temps d'attente qui peuvent être extrêmement longs. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est auditionné qu'il y aura une réponse immédiatement et un jugement tout de suite. Et que parfois, la réponse de la justice n'est pas celle que la personne attend. Il peut y avoir un non-lieu, il peut y avoir une relaxe. Qu'est-ce que ça veut dire? Un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de preuves. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, contrairement au nom que ça apporte. Donc tout ça, en fait, on prépare la personne aussi. Si elle s'inscrit dans cette démarche judiciaire, on la prépare à ce qui va se passer. En fait.
Alors on a face à nous deux psychologues et une psychiatre. Quelle est la différence entre ces deux fonctions, entre ces deux professions, dans le traitement de la question des VSS?
Alors, la différence déjà initiale, c'est que le psychiatre étant médecin, mais je l'ai laissé parler Gaëlle de son métier, mais elle est médecin, donc elle va pouvoir aussi prescrire. En tout cas, le psychologue va s'en tenir à une thérapie par les mots. En premier lieu, donc le médecin aura aussi une autre approche.
En tant que psychiatre, on a aussi cette démarche d'évaluer, de poser un diagnostic, de prescrire des traitements quand il y a besoin par rapport aux symptômes que présente la personne. Voilà, même si un médecin peut aussi faire une psychothérapie, enfin, c'est pas si clivé que ça, mais voilà, en tout cas, y a cette dimension de prescription médicamenteuse si besoin.
Et j'imagine qu'il y a aussi une différence en fonction des traumatismes. Certains peuvent être peut-être plus adaptés à un travail avec un psychiatre et d'autres peut-être plus avec un psychologue. Ou est-ce que finalement c'est plus, ça se complète ou enfin est-ce qu'il y a du cas par cas là-dessus ou pas?
Nous, sans psychotrauma, il n'y a pas de différence en fait. C'est vrai que les psychiatres, ils font aussi des psychothérapies. Et après, si vraiment le patient, il est isolé dans son parcours de soins, qu'il est suivi que chez nous, qu'il n'y a pas de médecin traitant, pas d'autres psychiatres sur le secteur en relais, et qu'on pense qu'un traitement pourrait aider le patient dans sa thérapie, effectivement, on va l'orienter vers nos collègues psychiatres. Mais sinon, chez nous, il n'y a pas de distinction.
En général, est-ce que les victimes de VSS se dirigent naturellement vers des professionnels de santé ou est-ce qu'elles restent justement prisonnières, entre guillemets, de ce traumatisme?
Là encore, ça dépend, mais je pense qu'effectivement, il y a un bon nombre de victimes qui ne vont pas forcément aller vers les soins. Alors, soit parce qu'elles ont parlé de leur agression précédemment et elles n'ont pas été entendues, par exemple. Ça arrive, notamment un enfant qui serait victime, qui révèle les faits et il tombe malheureusement sur un adulte qui n'est pas protecteur et qui ne l'aide pas à ce moment-là. Et ça, on sait que ça peut complètement fermer la parole, en fait. Et la personne va peut-être rester dans ce silence et avec ces symptômes-là. Donc ça dépend vraiment des situations.
Et du coup, quel doit être, entre guillemets, le premier réflexe d'une personne victime de VSS vers qui est-ce qu'elle doit le mieux s'orienter quels sont les premiers gestes, entre guillemets, à faire?
Alors, je pense que si la personne vient d'être victime, le mieux c'est de se rendre directement aux urgences, en fait. Et notamment au CHU où il y a l'unité médico-judiciaire qui peut intervenir pour faire des examens, faire des expertises. Et surtout, alors bon, ça va être un petit peu cru peut-être, mais surtout ne pas prendre de douche pour qu'il y ait ces recueils de preuves justement qui puissent se faire.
Est-ce qu'aujourd'hui on a assez de moyens pour accompagner d'un point de vue santé les personnes victimes des violences sexistes et sexuelles, que ce soit des moyens matériels ou financiers par exemple?
Il nous faut toujours plus de moyens. Oui, je pense que on est obligé de quand même de faire le constat que notamment la psychiatrie manque de moyens et la santé aujourd'hui manque de moyens pour accompagner les personnes qui aussi nécessitent du temps d'accueil parce qu'on n'est quand même pas dans des situations, on n'est pas dans du somatique. Voilà, justement, on est des personnes qui ont vécu souvent un trauma. Donc, il y aurait toujours besoin de plus de moyens, mais malgré tout, il y a des choses qui se mettent en place et de plus en plus. On a bien en tête que même dans le réseau libéral, je dirais, aujourd'hui, il y a du délai d'attente pour être pris en charge quand on est patient. Donc, il y a du besoin.
Si on revient sur la question des enfants, est-ce qu'il y a aussi des conséquences, pareil, physiques ou mentales, pour ceux qui n'ont pas été forcément directement victimes de VSS, mais dont les parents ou dont un proche a pu être victime de VSS et auxquels ils auraient pu assister?
Bien sûr, dans le cas des stress post-traumatiques et des traumas, on peut aussi être traumatisé d'avoir été témoin. On n'est pas forcément victime, on peut aussi avoir été témoin ou avoir entendu ce genre d'histoire, ou avoir vu des images, il n'y a pas besoin forcément d'être victime pour développer des symptômes.
Et est-ce qu'il y a des conséquences d'un point de vue pour les enfants strictement, par exemple, dont les parents ont été victimes, qui n'ont pas forcément été témoins d'une agression, mais simplement qui sont juste l'enfant de quelqu'un qui était victime?
Alors, c'est pas héréditaire.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais effectivement, si on prend un exemple d'un parent qui aurait été victime d'inceste dans son enfance, le parent peut avoir lui-même du coup un lien à l'autre ou des schémas parentaux qui peuvent être perturbés s'il n'a pas travaillé dessus. Et il y a des choses ensuite dans le lien avec son propre enfant qui peuvent se jouer. Et alors c'est un peu compliqué, mais l'enfant peut développer des symptômes alors que lui-même n'a pas été victime, mais il perçoit des choses, parce que même si un enfant, on ne lui dit pas c'est toute l'histoire du tabou hein, dans les familles, les secrets de famille. Et bien, même si on ne dit pas, on n'explique pas les choses à l'enfant, il peut percevoir des choses, il peut avoir compris des choses, ou en tout cas, ça peut se manifester par des symptômes particuliers, alors qu'il n'a pas connaissance de ça.
Et comment, vous vouliez rajouter peut-être ?
C'était simplement pour insister sur ce que dit elle, c'est-à-dire c'est vraiment le fait que l'enfant parfois qui ne peut pas être protégé par son parent parce que lui-même a été exposé à la violence sexuelle mais qui n'a pas pu en faire quelque chose, très étrangement, hein, il va y avoir une sorte de répétition et de mise en danger en fait de l'enfant.
Et comment est-ce qu'on se forme en tant que professionnel sur ces questions-là ? J'imagine que ça doit pas être forcément simple.
Alors, c'est pas simple. Nous, effectivement, on s'est formé, mais surtout au CRVS, on donne des formations sur cette question des violences sexistes et sexuelles. Et donc, on donne des cycles de formation qui sont importants et qui s'adressent à tous les professionnels qui travaillent dans ce champ-là.
Au CRP, on est dans la même démarche. On a aussi tout un versant formation. Et effectivement, on forme. Les professionnels de santé qui souhaitent apprendre les thérapies qui sont proposées au centre psychotrauma.
Est-ce que la question des violences sexistes et sexuelles est ancienne dans la question du traitement des troubles psychologiques ?
Est-ce que ça fait longtemps qu'on aborde cette problématique quand on veut soigner des patients ou est-ce que c'est quelque chose de relativement récent ? Donc vous n'avez peut-être pas de référentiel ?
Pas forcément, mais c'est vrai que la question de l'inceste, par exemple, c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, je pense que les violences sexuelles et sexistes, surtout intrafamiliales, c'est quelque chose qui est relativement ancien quand même. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation importante sur ce thème-là, et heureusement, mais je pense qu'effectivement, c'est pas un sujet récent.
Mais il y a peut-être, tu vois, une libération récente qui fait que déjà de base, les gens vont peut-être plus facilement consulter, ont peut-être moins de freins en fait à aller vers vous.
Oui, alors probablement, ça c'est sûr. Il y a une médiatisation autour des violences sexuelles qui fait que ça touche sûrement plus de personnes, en tout cas peut-être plus de personnes qui se reconnaissent dans ce qu'elles ont vécu. En tout cas, effectivement, c'est pas un sujet récent, mais je pense que c'est quand même un gros tabou dans la société, ces questions-là, et encore chez les professionnels. Et justement, ça peut être un frein, ça, pour les professionnels, à aller interroger ces questions de la violence sexuelle chez les patients ou les patientes. Et c'est justement l'intérêt de se former et de travailler sur les représentations qu'on a de ces violences sexuelles.
Parmi les personnes que vous accompagnez, est-ce que vous êtes aussi amené parfois à travailler avec des personnes qui ont ces comportements violents de VSS et qui eux-mêmes aimeraient peut-être soigner leur violence, et est-ce que vous travaillez là-dessus aussi ?
Alors, avec Lucie, on a cette particularité de travailler, alors certes au centre référence violences sexuelles, mais également en détention, donc en prison, où on intervient notamment auprès des auteurs de violences sexuelles.
Et comment on travaille là-dessus ? Ça ne doit pas être simple non plus ?
Et effectivement, ce n'est pas simple. C'est une formation spécifique. C'est du temps de réflexion, du temps de travail en équipe. Je rajouterais aussi qu'on travaille au CRVS. Hein, on a ce qu'on appelle le numéro STOP, qui est un numéro qui permet aux personnes qui ont des fantasmes, notamment pédophiles, de pouvoir nous contacter quand ils sont pas passés à l'acte, et de manière anonyme. Et donc c'est aussi un endroit, enfin en tout cas voilà, une possibilité pour eux, un espace de parole, et pouvoir essayer de travailler cette question avec eux.
Ben merci beaucoup à toutes les trois d'être venues à notre micro. Je rappelle Delphine Avrion, vous êtes psychologue au Centre Régional Psychotraumatisme Normandie. Gaëlle Arc, vous êtes psychiatre au CRIAVS, le Centre de Référence Violences Sexuelles Normandie-Ouest. Et Lucie Berbiger, vous êtes psychologue et également membre du CRIAVS. Merci encore et bonne journée à vous trois.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec l'Université de Caen et le Dôme qui propose à partir de demain et jusqu'à vendredi l'organisation d'un colloque consacré aux recherches participatives. L'idée est d'aborder cette thématique en réunissant des chercheurs et chercheuses qui étudient le phénomène de la participation aux sciences ainsi que des acteurs et actrices engagés dans des programmes de recherche participative. Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site unicamp.fr.
Et comme chaque semaine, notre recommandation documentaire, ce soir Arte vous propose un zoom sur le gaz russe dans la région arctique de Yamal qui recèle 80% des réserves gazières de Russie. Problème, c'est aussi la terre des nénettes, peuple autochtone qui est aujourd'hui confronté au projet démesuré de Vladimir Poutine. Un documentaire à voir ce soir à 22h45 sur Arte.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Johan pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.